Un journal présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Ce procès n'est pas une vengeance, affirme le patron du parquet national financier à propos de Nicolas Sarkozy. Les réquisitions doivent tomber d'ici ce soir. L'ancien président est jugé pour corruption. L'inquiétude du monde de la culture, les mauvais chiffres de l'épidémie en France pourraient remettre en cause le déconfinement partiel prévu le 15 décembre. Ce jour-là, les musées, les cinémas et les salles de spectacle doivent rouvrir. Emmanuel Macron en défense et illustration du nucléaire, aujourd'hui chez Framatome au Creusot. Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire, vient de déclarer le chef de l'État. Une première aux États-Unis, un militaire noir à la tête du Pentagone. Joe Biden veut nommer l'ancien général Lloyd Austin ministre de la Défense, une nomination qui doit encore être confirmée par le Sénat américain. À la fin de ce journal, nous évoquerons le retour des trains de nuit en Europe. Quatre pays, dont la France, viennent de signer un accord pour relancer les wagons-lits sur le vieux continent. Personne ici ne cherche à se venger d'un ancien président de la République. Jean-François Bonnert, le chef du parquet national financier, a cru bon de se justifier en ouverture du réquisitoire contre Nicolas Sarkozy. L'ex-chef de l'État est jugé pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Il a clamé son innocence hier en espérant, je cite, être lavé de cette infamie. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Vous suivez le procès de Nicolas Sarkozy pour France Culture. Où en sont les réquisitions, Anne ?
Les réquisitions sont toujours en cours. C'est une accusation en force qui se donne à voir depuis le début d'après-midi. Jean-François Bonnert, le chef du PNF, est venu en personne dégager la voie pour ses collègues qui, depuis 15 jours, font face à une défense qui cherche à faire tomber la validité des écoutes de la ligne Bismuth et l'enquête préliminaire parallèle controversée sur les fadettes des avocats. Le PNF n'est jamais sorti des clous, a-t-il argumenté, façon de redorer le blason de cette institution encore jeune et dont les méthodes ont été taxé de barbouzerie par des ténors du barreau il y a quelques mois. Votre tribunal est saisi de faits particulièrement graves, insiste Jean-François Bonnert, le ton solennel face à la présidente de la 32e chambre. Puis les deux procureurs enchaînent dans une démonstration soignée. Ils s'appuient sur des schémas et des chronologies projetées dans le tribunal pour bien retracer les faits et caractériser les infractions reprochées. Qu'on ait vu ou pas le prince de Monaco, cela ne change rien, martèle Jean-Luc Blanchon. En droit pénal, l'élément intentionnel suffit à caractériser les faits de corruption. La vice-procureure Céline Guillet revient ensuite longuement sur les informations confidentielles qui ont transité dans cette affaire par le biais de Gilbert Azibert, le haut magistrat à la Cour de cassation qui renseignait Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy sur le pourvoi de ce dernier dans l'affaire Bettencourt. Il n'est pas contesté que certaines de ces informations n'étaient confidentielles que pour peu de temps, expliquait-elle, mais ce qui est en jeu, c'est aussi l'exercice serein et indépendant de la justice. Elle a d'ores et déjà demandé une requalification des faits pour Gilbert Azibert de corruption à corruption par ou pour magistrat. Rappelons que les trois prévenus risquent 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende.
Merci Anne Fauquemberg en direct du nouveau palais de justice de Paris avec Thibaut Nassimben pour les moyens techniques. Dans le procès des attentats de janvier 2015, les réquisitions sont tombées ce matin avant le début des plaidoiries de la défense cet après-midi. Les deux avocats généraux ont demandé des peines allant de 5 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité pour les 14 accusés. La perpétuité qui concerne les deux accusés jugés pour complicité de crimes terroristes. Le djihadiste Mohamed Belloussine, absent à l'audience et présumé mort en Syrie. Et Ali Riza Polat, qui lui est présent. Florence Turm, vous suivez ce procès pour France Culture. Ali Riza Polat est présenté comme le bras droit d'Amedi Koulibaly, le tueur de l'hypercacher.
Une personnalité qui marquera les annales de la justice. Les avocats généraux résument ainsi l'accusé contre lesquels ils ont requis la peine la plus lourde, réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Chez lui, aucune intégration de la norme, de la loi, indique Julie Holweck, le désert pour seul horizon et le grand banditisme pour seul projet. Impulsif, intolérant à la frustration, débordant de toutes parts, sans filtre, liste son collègue Jean-Michel Bourlès. Il n'hésite pas à couper la parole, y compris aux victimes, à insulter ses co-détenus, à menacer un témoin policier, mais le réduire à son caractère volcanique, au personnage pittoresque de délinquant couteau suisse, serait une erreur, prévient le magistrat. Il se sert de ses tempêtes pour éviter de répondre aux questions gênantes. L'accusé écoute sans réagir, l'avocat général détaillait les éléments matériels qui constitue selon lui la complicité. À l'encontre d'Ali Rizapolat, le parquet ne retient d'ailleurs pas l'association de malfaiteurs terroristes, plus imprécise dans sa définition pénale, moins lourde en termes de condamnation. En contact permanent avec Koulibaly, reprend Jean-Michel Bourlès, il l'a assisté lors des transactions pour les armes, les escroqueries, supervisé les achats de matériel, fait disparaître les preuves. Catalogue à la Prévert, riposte son avocate, l'honnêteté des débats, c'est de chercher les vraies causes, les vrais auteurs. Comme elle l'a fait à plusieurs reprises durant l'audience, Isabelle Coutant-Père dénonce les trous dans la raquette, le scandale qui consiste à avoir dissocié de ce dossier celui de Claude Hermant, le marchand d'armes lillois, informateur des douanes et de la gendarmerie, condamné par ailleurs. Pour elle, son client reste avant tout l'objet du désir d'une mauvaise justice.
Merci Florence Turm avec Arthur Dumont pour les moyens techniques. La situation épidémique de la France reste préoccupante, a mis en garde hier soir Jérôme Salomon. Le directeur général de la Santé a laissé entendre que l'objectif des 5000 contaminations quotidiennes mi-décembre ne serait sans doute pas atteint. C'était le plancher fixé par Emmanuel Macron pour un déconfinement partiel la semaine prochaine. Il y avait encore ces derniers jours plus de 10 000 contaminations quotidiennes en moyenne. Le Premier ministre Jean Castex tiendra une conférence de presse ce jeudi soir pour dire si ces chiffres remettent en cause ou non le déconfinement. Bonsoir Claire Flochel.
Bonsoir.
L'inquiétude est vive dans le milieu de la culture car le 15 décembre, les musées, les cinémas et les salles de spectacle doivent normalement rouvrir leurs portes.
Oui, s'il n'y a pas réouverture, tous les professionnels du secteur de la culture le disent, ce sera un vrai coup dur car les salles se sont préparées, les équipes se sont remises en route, les espaces publicitaires ont été réservés. De l'argent est en jeu, évidemment, mais aussi le moral des troupes. En 6 mois, les théâtres, par exemple, ont pu travailler entre 3 et 5 semaines seulement. C'est le calcul qu'a fait Sébastien Azopardi. Le comédien, metteur en scène et co-directeur du Palais Royal à Paris ne comprend pas pourquoi il y a 2 poids, 2 mesures entre les magasins et les salles de spectacle.
On a l'impression que la communication du gouvernement se fait sur notre dos en disant on s'occupe de vous, on ferme les salles de spectacle, mais en revanche tout le monde peut aller aux galeries ou dans les grands magasins faire ses courses, alors que dans une salle de spectacle on ne touche à rien, on regarde tous dans la même direction, il n'y a pas de croisement, il n'y a pas de bousculade. Enfin, il y a une sorte d'incompréhension, d'injustice, un sentiment d'injustice qui est très fort.
Ne pas céder à l'abattement, voilà le point de vue malgré tout du président du syndicat national du théâtre privé et directeur du théâtre Montparnasse à Paris, Bernard Tamin, qui se prépare à rouvrir mais aussi à reculer cette réouverture.
On a mis en place des protocoles sanitaires excessivement sécurisés et je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser la culture. Nous sommes un secteur responsable, ce qu'on veut absolument éviter comme tout le monde, c'est cette troisième vague. Donc si on doit reculer le lever de rideau de quelques jours, nous serons contraints de l'accepter avec responsabilité.
Alors allègement du confinement ou non, dans une semaine, Jean Castex pourrait trancher jeudi après un conseil de défense demain.
Claire Flochel, merci. La crise sanitaire va-t-elle bouleverser le droit d'auteur? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin à ses invités dans le temps du débat juste après ce journal. « Moi, j'ai besoin du nucléaire », avait dit Emmanuel Macron vendredi dans son interview aux médias en ligne brut, car pour lui, l'atome est une énergie indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique et pour soutenir la filière. Le chef de l'État est au Creusot cet après-midi chez Framatome, le fabricant de réacteurs nucléaires. Véronique Robérotte, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Macron n'a pas manqué tout à l'heure de rappeler la place éminente du nucléaire dans le mix énergétique français.
Il y a 4 ans, en 2016, lors d'une précédente visite au Creusot, le ministre Macron avait à l'époque clairement affirmé que le nucléaire était une énergie d'avenir. 4 ans plus tard, le président Macron, cette fois, n'a clairement pas changé d'avis, bien au contraire, face à l'urgence climatique. Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire, énergie décarbonée, a dit Emmanuel Macron. Pour plusieurs raisons, eh bien, c'est l'énergie non intermittente qui émet donc le moins de CO2. C'est une énergie sûre et propre, pourvue, a nuancé tout de même le chef de l'État, que l'on progresse sur la question des déchets nucléaires. Pour autant, Emmanuel Macron a affirmé ne pas être partisan du tout nucléaire. Il faut réfléchir sans tabou à un mix énergétique dont le nucléaire resterait un pilier, mais avec parallèlement un très haut niveau d'énergie renouvelable, a dit le président. Un travail d'étude sur la construction de nouveaux réacteurs sera mené ces prochains mois, annoncé le président Macron, et c'est sur la base de ce document, de ce travail documenté qu'il faudra décider au plus tard en 2023, au moment de la mise en activité de l'EPR de Flamanville. En ville, eh bien qu'il faudra décider de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. C'est donc lors d'un prochain quinquennat que la France décidera si elle veut ou non d'autres EPR. Un document récent évoquait tout de même la mise en service de 6 nouveaux EPR d'ici 2044. Enfin, Emmanuel Macron a aussi annoncé 500 millions d'euros d'investissement dans la filière nucléaire dès 2021, une filière que le président estime pourvoyeuse d'emploi, notamment pour la jeunesse.
Véronique Rebérotte, merci. Emmanuel Macron a aussi évoqué les atouts militaires de l'énergie atomique. Le futur porte-avions français, appelé à remplacer le Charles de Gaulle, aura une propulsion nucléaire, vient d'indiquer le président. En pleine polémique sur les violences policières dénoncées à gauche, le gouvernement va organiser un Beauvau de la sécurité. L'événement aura lieu en janvier, avec pour objectif d'améliorer les conditions d'exercice des policiers et des gendarmes. Il s'agira aussi de consolider le lien entre les Français et leurs forces de l'ordre. En attendant, 3 décrets publiés au journal officiel contribuent à alimenter la polémique, révélée par le site Next Impact. Les textes donneraient des moyens supplémentaires à la police pour ficher la population. C'est du moins ce qu'affirment les associations au Laura du lieu.
Ces 3 décrets concernent 3 fichiers différents qui contiennent environ 40 000 personnes chacun, des personnes représentant une menace pour la sécurité publique. Concrètement, jusque-là, un agent pouvait collecter des informations uniquement en cas de menace à l'ordre public, une notion très encadrée juridiquement. Désormais, ce peut être en cas de menace pour la sûreté de l'État, une notion bien plus vaste. Ensuite, le type d'informations collectées ne concerne plus seulement les activités politiques ou religieuses ou syndicales, mais aussi les opinions, les convictions philosophiques ou religieuses, et aussi les comportements et les habitudes de vie. Enfin, le champ des personnes qu'un agent peut ficher est aussi étendu. De la seule personne physique, on passe désormais aux personnes morales et aux groupements, traduction, les associations et les manifestations. Le tout, il faut bien le comprendre, à la seule appréciation des agents qui estiment eux-mêmes s'il y a menace, même si la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peut intervenir a posteriori, explique Nathalie Martial, professeure de droit civil.
C'est pas parce qu'il y a ces décrets qu'il n'y a plus du tout de garde-fous démocratiques. Simplement, les garde-fous démocratiques viennent après. Et on sait très bien, une fois que le fichage est fait, le mal est fait quelque part. Et donc c'est toujours beaucoup plus difficile d'effacer que de ne pas enregistrer.
Et même si la CNIL, justement, a empêché l'introduction de la reconnaissance faciale dans ces décrets, le risque est bel et bien là, selon Arthur Messot, de la Quadrature du Net.
Ces décrets, ils facilitent grandement les recoupements entre d'autres fichiers de police. Par exemple, entre le fichier de traitement des antécédents judiciaires qui prévoit de la reconnaissance faciale et aussi le fichier des cartes d'identité et des passeports sur lesquels il y a nos photos.
Et tout ça ressemble fortement au fichier Edwige en 2008. À l'époque, des mobilisations citoyennes avaient fait reculer le gouvernement, notamment sur le type d'informations collectées.
Laura Dulieu, merci. Autre polémique relancée sur l'enseignement cette fois. Une étude publiée aujourd'hui renforce l'idée que le niveau baisserait à l'école. En l'occurrence, les jeunes Français seraient les derniers de la classe en mathématiques, selon l'étude TIMSS. Les élèves testés en classe de CM1 et de 4e sont les plus mauvais de l'Union européenne. Un résultat qui ne surprend pas Agnès Gatteau, mais qui lui déplaît. Agnès Gatteau est la responsable de la commission premier degré de l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Et pour elle, le problème est aussi culturel.
Peut-être qu'on a un rapport à cette discipline qui est une discipline exigeante, qui classe les gens aussi. Peut-être qu'on a une approche qui n'est pas celle d'un territoire bienveillant et gai. Les maths, ça ne se résout pas à des exercices scolaires. C'est aussi une compréhension particulière. Qu'est-ce que je fais quand je fais des maths? Quelle est cette casquette particulière que je me mets pour étudier les sujets d'études qu'on me propose? Qu'est-ce que ça permet de faire, les maths? Je suis de nature optimiste. Je me dis qu'il y a d'autres pays qui, à un moment donné, n'étaient pas très brillants. Ils ont trouvé des pistes. J'espère que les pistes qu'on trouvera seront des pistes pour le bien global de la société, que ça sera ni trop de bachotage pour réussir des items, ni trop de mesures hors sol qui nous tomberaient dessus à un moment donné. J'espère que les gens qui réfléchissent à ce que doivent être des programmes intégreront vraiment les pratiques scolaires, viendront faire des tours, voir ce qui se passe dans les classes, comment les élèves réagissent. Et puis j'espère que la société, globalement, aura une espèce d'image des mathématiques qui permettra aux élèves d'être plus valorisés à l'idée de faire des maths. Voilà, qu'on arrête de dire que les maths c'est difficile ou qu'on est nul en maths.
Agnès Gatteau de l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, elle répondait à Diane Berger. Le ministère de l'Éducation nationale annonce la création d'une nouvelle spécialité spécialité sport au lycée à partir de la rentrée scolaire 2021. Cette spécialité en éducation physique, pratique et culture sportive sera proposée aux lycéens de la voie générale dès la classe de première. Sa mise en œuvre sera progressive. 1 à 3 établissements par académie seront concernés dans un premier temps, ce qui représentera à la rentrée 2021 à l'échelle nationale environ une centaine d'établissements publics et privés sous contrat. Aux États-Unis, Joe Biden veut nommer un militaire noir à la tête du Pentagone. Le président élu, qui continue à former son équipe à 43 jours de sa prestation de serment le 20 janvier prochain. Et selon les informations de la presse américaine, il devrait d'ici la fin de la semaine désigner l'ex-général Lloyd Austin pour devenir son futur secrétaire à la défense. Si cette nomination est confirmée par le Sénat, Austin deviendra le premier afro-américain à diriger le Pentagone. Joe Biden et sa future vice-présidente Kamala Harris ont, rappelons-le, promis de constituer une équipe qui ressemble à l'Amérique. À Washington, Grégory Phillips.
Il a fait toute sa carrière dans l'armée de terre, diplômé de l'académie militaire de West Point au milieu des années 70. Lloyd Austin a gravi tous les échelons. Premier afro-américain à avoir commandé une division militaire au combat. Premier homme noir à avoir supervisé tout un théâtre d'opérations, l'Afghanistan, et à avoir dirigé le CENTCOM, le commandement central américain, chargé des opérations militaires au Moyen-Orient. Le général Austin et Joe Biden se connaissent bien. En 2011, ils ont ensemble supervisé le retrait d'Irak de 50 000 hommes, décidé par Barack Obama. Depuis 4 ans, Lloyd Austin avait pris sa retraite et enfilé un costume de consultant pour l'industrie de la défense. Si sa nomination est confirmée par le Congrès, ce qui n'est pas acquis d'avance, il deviendra le premier Africain-Américain à diriger le Pentagone, une organisation tentaculaire, 1 300 000 soldats, où les Noirs américains sont surreprésentés.
Grégory Phillips, notre correspondant aux États-Unis. Dans le feuilleton du Brexit, Boris Johnson fait un pas vers l'Europe. Le Premier ministre britannique a décidé de supprimer un projet de loi très controversé, l'Internal Market Bill. Ce texte dévoilé en septembre permettait au Royaume-Uni de revenir sur l'accord signé avec l'Europe l'année dernière. Un geste de détente alors que les négociations sur le Brexit sont actuellement dans l'impasse à un peu plus de 3 semaines de l'échéance. À Londres, les explications de Richard Place.
Il avait fâché presque tout le monde. Quand Boris Johnson dégaine ce texte, tous les anciens premiers ministres britanniques, quel que soit leur bord, lui tombent dessus. Le monde entier s'étonne et s'énerve. Depuis, ce projet a fait son chemin parlementaire. Hier soir encore, la Chambre des communes votait en sa faveur. Boris Johnson fait donc un cadeau à l'Europe, mais pendant une négociation aussi serrée que celle du Brexit, ce n'est jamais gratuit. Il en profite donc pour mettre la pression à ses amis européens qui, je cite, « doivent comprendre que le Royaume-Uni a quitté l'UE pour pouvoir exercer un contrôle démocratique. Nous en sommes encore loin. » Fin de citation. Si le Premier ministre britannique sacrifie si facilement ce projet de loi aujourd'hui, c'est aussi parce que Joe Biden a été élu président des États-Unis, un président aux racines irlandaises dont il parle souvent, qui n'est pas favorable au Brexit et encore moins à ce texte qui pouvait remettre en cause les accords de paix sur la terre de ses ancêtres. Boris Johnson concède donc un petit carré de terrain avec beaucoup d'arrière-pensée.
Richard Place, notre correspondant au Royaume-Uni. Si le Brexit marque un recul dans la construction européenne, l'Europe avance dans le domaine du ferroviaire. 4 pays, l'Allemagne, l'Autriche, la France et la Suisse, se sont mis d'accord pour relancer les trains de nuit. Un protocole a été signé aujourd'hui en marge du Conseil des ministres des Transports de l'UE. Éric Biegala, voilà donc le grand retour des sleeping cars, des wagons-lits en bon français.
Dans un premier temps, ce seront 2 lignes de nuit qui devraient être opérationnelles d'ici un an, en décembre 2021. Paris-Vienne, via Munich, et Amsterdam-Zurich, via Cologne. À terme, d'ici 2025, le consortium des opérateurs ferroviaires européens imagine des liaisons plus longues, type Paris-Varsovie, via Cologne et Berlin, ou Berlin-Barcelone, via Lyon. Ce sont les chemins de fer autrichiens qui ont remis au goût du jour ces liaisons nocturnes, abandonnées par les Français comme par les Allemands. Actuellement, la compagnie autrichienne ÖBB opère déjà 26 lignes de nuit au départ de Vienne sur des destinations comme l'Italie, la Croatie, Bruxelles ou même Berlin. C'est le réseau Nightjet. Et ça marche assez bien. Fin 2019, avant la pandémie, les chemins de fer autrichiens annonçaient que leur vente de billets sur les longues distances avait augmenté de 11% en un an. En clair, il existe indéniablement un marché. Le premier qui est mis en avant, c'est celui des jeunes qui refusent de prendre l'avion en court ou moyen courrier pour des raisons écologiques. Mais le train de nuit devrait séduire plus largement. Actuellement, pour le prix d'un vol Vienne-Berlin, par exemple, on trouve des Vienne-Berlin en train, en cabine particulière, avec douche, WC et petit déjeuner compris, qui vous permettent d'arriver au centre de la capitale allemande, tôt le matin, frais et dispo, en ayant dormi à bord, ce qui vous épargnera une nuit d'hôtel le cas échéant.
Éric Biégala sur le retour des wagons-lits en Europe. Merci. Un mot du temps demain, toujours hivernal. Un peu de neige à l'est et sur les Pyrénées, de la grisaille au centre et de la pluie à l'ouest. Les températures minimales seront bien froides, de moins 3 à 9 degrés de la Champagne à la Corse. L'après-midi, il fera de 2 à 13 degrés du nord-est à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.